Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Ce matin, Alex réfléchit à un moyen de comprendre un peu mieux le réalisateur qui, hier, a montré quelques failles.
Tu sais, Jean-Marie, moi aussi, mes parents sont de droite.
Ah bon ?
Mais oui, mais c'est pas une fatalité. Moi, je combats pour essayer d'être de gauche.
Ah, comme Manuel Valls.
Oui, enfin, avant qu'ils perdent le combat, mais c'est ça.
Ah, et à la maison ?
Ah bah, à la maison, moi, quand je vois mes parents, je leur dis que bah, Charline et Guillaume, c'est des tortionnaires, que j'essaye de leur parler le moins possible.
Ah, salut les amis !
Salut Charline !
Salut, je vais prendre un café.
Attends.
Ah bah, ça alors, il est passé de tortionnaire à grand timide, quoi.
Le parcours inverse de Pol Pot.
Ouais, bah écoute, moi je propose un truc.
Oui.
Faisons un pas vers lui, voilà. Tu vois, vers ses réflexes conservateurs.
Eh oui, après tout, ouais. On est capable, nous aussi, de porter des vestes molletonnées et des chaussures bateau.
Voilà. Allez, et puis quand il revient, on fait semblant de lire Valeurs Actuelles.
Voilà,
allez, hop,
ouais. À ce rythme-là, tu vas finir par voter Fillon.
Allez.
Il revient.
Allez, au boulot, les sujets.
Ouais. On cherche dans toute la presse.
Ah hein, bah Charline, pourquoi tu te pinces le nez ?
Non, pour rien. Ouais.
Hein. J'ai mis du déo.
Oui, non, c'est pas toi, c'est parce qu'elle lit Valeurs Actuelles et voilà.
Oh, comme ma mamie.
Vois,
ah, mon Dieu.
Ça t'émeut ?
Ah oui, merci. Moi aussi, j'ai décidé de faire un pas vers vous, d'ailleurs.
Ah, c'est bon. Gentil, ça.
Ah, oui, je suis très, très touchée, Jean-Marie. Hein,
donc voilà, à la prochaine élection, je vais voter.
Ah, très bien.
Super.
Je vais voter centriste. Je vais voter Bayrou.
Ah non, ça va pas, ça. Bonjour la France Inter et bienvenue dans la start-up radiophonique dont voici la devise du jour. Qui part en conf-call perd sa place de coworking. Et voici le menu déroulant de cette émission. De quoi les enfants ont-ils peur aujourd'hui ? Eh bien de la pauvreté. Une étude montre que 62% des 8-14 ans flippent déjà de finir dans la précarité même si personne n'est touché dans leur entourage. En revanche, ils en croisent parfois à l'école.
Ma mère s'est toujours débrouillée pour qu'on ait quelque chose dans notre assiette. Un jour sur deux, du gratin ou des frites, et le week-end, les deux.
La mode a désormais ses justiciers qui, grâce à Instagram, repèrent les plagiats. Quand un petit créateur indépendant poste une création et que 6 mois plus tard, une grande marque sort un modèle très, très, très similaire, c'est la honte publique pour la grande marque.
C'est qui, la styliste ? Une vieille copine aveugle ?
Au moment de quitter une chambre d'hôtel, qui n'a jamais ramené un savon ? Qui, un bic ou une serviette de bain ? Quand d'autres se barrent avec une lampe, la télévision ou le matelas. Oui, certains hôteliers envisagent d'ailleurs de glisser une puce dans les peignoirs.
Allez, les bras, les serviettes, tout ça c'est pour nous.
Alex Vizorek.
Non, sans transition.
Quelle petite bande de plaisantins avez-vous choisi aujourd'hui ?
Pas des plaisantins, une toute belle équipe, bien évidemment, pour ce vendredi à 17h20. Celui qu'Hollywood nous réclame, alors que lui attend ici désespérément de pouvoir enfin écrire un scénario pour Vincent Lindon, c'est Thomas Bittgen. Bonjour.
Bonjour à tous. Moi, je vais vous expliquer un peu comment on fait pour juger les histoires.
Très bien. À 17h30, la seule journaliste de talent pour qui les personnalités aimeraient être interviewées le plus tard possible, c'est Christine Gonzalez, bonjour.
Oui, j'aime bien interviewer les morts, c'est pour
oui.
ça. À propos
et
de
oui.
l'affaire Richard Ferrand, nous entendrons Jacques Chaban-Delmas, ancien homme d'État. Il a été aussi président de l'Assemblée nationale.
Enfin, j'étais l'un des hommes en France qui avait prouvé qu'il savait gouverner la France. Et avec, disons... une certaine réussite. On n'est pas tellement nombreux.
Non.
Et une certaine modestie, oui, bien évidemment.
Qui caractérise.
À 17h40, c'est un retour. Celle dont l'intelligence se dispute avec l'élégance, la place de la qualité qui la décrit la mieux. C'est Isabelle Sorrente, bonjour.
Bonjour Alex, bonjour les amis. Alors je vais vous parler de contes de fées.
Très oh. bien. Et enfin, 17h55, on finira la semaine en chanson avec le fils caché de John Baez et de Farinelli. C'est Frédéric Fromm.
Et voici celle qui va enjailler notre open space. Je vous laisse nous dire qui vous êtes.
Bonjour, je m'appelle Daphné Burki.
Oh, c'est incroyable.
C'est vraiment, je l'ai bien fait. Hein.
Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Bah, elle commence bien cette émission.
Ah ouais, on est bien, mais je suis hyper bien entourée. Merci pour l'invitation.
Mais avec joie, Daphné Burki. Vous présentez depuis 3 ans Je t'aime, etc. sur France 2, une émission qui est diffusée tous les jours à 15h.
Oui.
Vous avez une autre actualité dont on parlera tout à l'heure à propos du secours populaire et de mode.
C'est vrai.
Restez avec nous.
C'est fini parce qu'à 15h, Charline s'arrête de bosser, allume la télé,
ouais.
regarde. Du coup, ça fait un trou dans l'après-midi.
C'est super, vous apprenez des choses.
Oui, quand je comprends les chroniques de Manoukian, par
oui.
exemple.
Ah.
Vous avez des nouvelles d'ailleurs ?
On en parle vraiment d'André Manoukian.
On se partage la garde, donc on aimerait bien savoir comment il va.
Écoutez, il est un peu de travers en ce moment, mais vous êtes au courant. Il est je vous lâcherai le dossier plus tard. Mais non, il va très bien. C'est vrai qu'on fait une garde partagée. J'aimerais bien l'avoir totalement avec moi, mais on en discute après aussi, peut-être.
Très bien. Alors, à 15h, à cette heure-là, sur France Inter, nous écoutons Affaires sensibles, avec des histoires sombres de meurtres. Vous êtes en charge d'une autre mission.
Oui, mais c'est aussi une affaire sensible. C'est super, Affaires sensibles. Mais on peut l'écouter en podcast après. Oui. Parce que le mieux, c'est quand même de se brancher sur sa télévision à 15h. Maintenant, c'est une émission sur l'amour et la sexualité. Alors, vous parlez de toutes les actualités, principalement aussi politiques. Mais alors, nous, c'est politique, finalement, l'amour et le sexe. Mm-hmm. Donc, on en parle tous les jours avec des sexologues, des psychologues, des gens qui ont du vécu, comme on dit.
Oui, moi, j'ai jamais invité. C'est une émission de qualité. Oui.
C'est vrai, je devrais vous seriez à l'aise
pour parler de ça?
Oui.
Oui, ça va, j'en
pense. C'est particulier, parce qu'on s'attend plus à avoir ce genre d'émission en soirée, là, c'est l'après-midi. Oui. Or, en radio, ça s'est fait aussi, sur d'autres.
Mais non, ça a été la première réaction. Mais comment? Alors, la première réaction était, mais enfin, vous aurez fait le tour en 24 heures. Et là, je me suis dit, votre vie doit être bien triste, vu que c'est la troisième saison. Donc, non, on n'a pas fini de faire le tour de la question. Et après, on m'a dit, mais à 15 heures! Mais à 15 heures, oui, à 15 heures, en général, on est solo. Souvent.
Donc il y a beaucoup de sujets.
Et on peut aborder tous les sujets, sans aucune gêne. Il n'y a aucun jugement, il n'y a pas tellement de morale dans cette émission d'ailleurs. Donc non, pour l'instant, on ne s'est jamais censuré.
Donc on vous souhaite que l'amour dure plus que 3 ans pour avoir d'autres...
Non, mais même s'il ne dure pas 3 ans, ce n'est pas grave, parce que ça recommence après. C'est ça qui est génial. C'est un éternel recommencement. Et on peut faire toujours mieux. C'est le but de l'émission.
Daphné Burki, vous avez grandi à Canal+, donc on vous attendait pas forcément après-midi.
Débarquer sur le service public à 15h.
Exactement, ça s'est passé comme dans du beurre ou il a fallu se faire un peu adopter
bizarre,
par le public
comme ça.
Oui, comme dans du beurre, c'est une chronique qui est passée dans l'émission.
Et on accueille tout de suite Charline Van Hunter, comme dans du beurre. Comment ça se passe?
Gardez-le ce titre, faites-en une chronique, c'est une bonne idée.
C'est très cochon.
Non, mais est-ce que ça demande une adaptation, de comprendre un peu le public, parce qu'on passe d'une...
Voilà, non, mais alors non, alors quand on, j'espère... Alors, quand on vous choisit, bon, moi j'arrive comme ça, je commence pas à me formater, on m'a jamais formaté, donc je suis arrivée avec ce que je suis, et puis on m'a accueillie au fur et à mesure, mais ça s'est fait petit à petit, je vous dis pas qu'on arrive et qu'on performe tout de suite, on était dingue et tout le monde vous veut. Non, ça s'est fait, comme une rencontre, et là ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que j'ai quitté le groupe Canal+, du jour au lendemain, oui, ça a été rapide.
Et les émissions auxquelles vous avez toujours participé et animé correspondaient souvent à des périodes de votre vie. C'est pas chroniqueuse mode à Canal quand vous étiez
styliste. C'est vrai qu'il y avait eu des tendances. Ouais.
Les maternelles au moment où vous êtes devenue maman à peu près.
C'est vrai. Oui, elle avait déjà grandi, mais j'ai jamais réfléchi comme ça.
Mais est-ce que... Oui, c'est vrai, il y a sans doute une cohérence entre vous et vos émissions, et vous faites des choses qui vous ressemblent.
Mais j'adorerais me dire que ma vie est cohérente, mais je crois que ma vie n'est pas du tout cohérente, Charline. Je ne me projette pas, je ne sais pas ce que je fais demain. Ouais. Je sais ce que j'ai fait hier, et c'est pour ça que je suis un peu en flottaison, là, tout de suite, sur le micro, en fatigue, parce qu'on a beaucoup travaillé hier soir. Ouais. Mais je ne sais pas, non, je choisis les projets, ça dépend du jour, de l'humeur, comment ça se présente. Mm-hmm. Mais j'avais jamais réfléchi à ça. Mais alors, ça veut dire que demain, je fais quoi?
Le jour du Seigneur.
Ah oui?
Non, mais ça veut dire quoi? Ça voudrait dire si, admettons qu'il y ait une cohérence et que votre vie épouse les projets que vous acceptez à la télévision, et parce qu'on n'accepte pas par hasard. Faut quand même que ça vous ressemble, ou vous pouvez vous mettre dans des chaussons?
Ah non, pas du tout. Non, ouais. Je peux pas. D'ailleurs, j'ai essayé une fois, ça marche pas du tout. Non, quand on m'appelle, on me prend comme je suis. Donc j'ai fait des chroniques, je parlais en effet de tendance, et puis petit à petit, j'ai pris un peu, je sais pas, j'ai pris confiance en moi, peut-être au fur et à mesure. C'est pas facile de piloter une émission, finalement. Et c'est une grosse responsabilité, il faut pas dire trop de bêtises. Et en même temps, faut garder un lâcher-prise.
C'est ce qu'elle dit.
Mais non, mais c'est très bizarre, parce qu'il faut garder ce lâcher prise, il faut qu'on soit nous-mêmes, et en même temps, on est en direct à l'antenne tous les jours, donc ça c'est... Voilà, chaque année a été différente, je sais pas ce que je ferai demain, mais là, c'est une matière intéressante à travailler, en tout cas, cette émission, cette actualité sur l'amour et la sexualité, puis finalement, tout passe par le prisme de l'amour et de la sexualité.
Mmh, oui, parce que vous pouvez parler de sujets d'environnement,
ceux qui
aiment ou qui sont passionnés...
Peu importe, tout passe.
La sodomie éco-responsable.
Je sais pas à quoi ça ressemblerait.
Bah, c'est le beurre bio.
Voilà. Même chroniqueuse, c'est peut-être en équilibre. Christine Gonzalez. Daphné Burki est en notre compagnie jusqu'à 18h sur France Inter. Djoubaka nous a programmé, mon héros, Tikkun Jaffa Coli. avec un petit message peut-être à Richard Ferrand. Je sais pas, le titre s'appelle Quitte le pouvoir, mais je vous laisse juge.
Quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Ça fait trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Tu pourrais avoir des emmerdes si tu nous laisses dans la merde. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir. Je t'avais prévenu que tu as été mal élu, mais tu t'es accroché. Aujourd'hui tout est gâché. Tu pourrais avoir des ennuis si les choses restent ainsi. Oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir. Je t'ai dit quitte le pouvoir. Aucun changement dans vos comportements, malgré différents gouvernements depuis 40 ans. Tu pourrais passer un sale moment si tu nous pourris le temps. Oh là là.
In that time, PBS got a gunman. When a man a good time. Qu'on a marre, on vit dans le cesse, on dit qu'on a marre, on a faim, pas de pain, on dit qu'on a marre, tout le peuple, tous les gosses, tous les mecs, qu'on a marre. Tu gouvernes mal, ton gouvernement mal, détourne mal, les comptes monumentales, vis dans le mal, tu nous fais dans le mal, il est donc évident que tu bêches dans le mental, pas d'évolution, mal, libère le peuple, fais le vide, fais le bien, mal, libère le peuple, et pense à demain, mal, libère le peuple, tu le fais pour le bon, tu le fais pour le peuple, reste tout le temps, tu nous pourris le temps, pas le moins de changement, tu nous pourris le temps, pas de boulot, pas de job, tu nous pourris le temps, l'avenir tout le temps, tu nous pourris le temps, une seconde de trop, une minute de plus, une minute de trop, un cadavre de plus, un cadavre de trop, le mandat de plus, c'est le mandat de trop. On a marre, on dit qu'on a marre, on vit dans le stress, on dit qu'on a marre, on a faim, pas de pain, on dit qu'on a marre, tout le peuple, tous les gosses, tous les mecs, on a marre. Voilà la porte, sort dans le calme, pas de balle, pas de sang, tu sors dans le calme, yo, voilà la porte, sort dans le calme, t'es qu'à la vallée, sors dans le calme.
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je t'ai dit quitte le pouvoir.
Laisse tomber l'histoire, tu sais bien pourquoi. Monsieur le président, sans incident, quitte le pouvoir. Laissez tomber l'histoire, vous savez pourquoi. Monsieur le président, quittez le pouvoir. Monsieur le président, si vous aimez votre peuple, quittez le pouvoir.
Quitte le pouvoir,
quitte le pouvoir, quitte le pouvoir.
Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, quitte le perchoir, Riri Ferrand.
Je vais pas résister, excusez-moi, c'est vrai qu'il faut se tenir.
De mieux en mieux.
On devrait se tenir.
Ou pas,
ou pas non, comme dit Daphné Burki, qui est notre invitée jusqu'à 18h sur France Inter. Et pour entourer Daphné.
Eh bien, mais je vois Thomas Bideguin, je vois Christine Gonzalez et le retour d'Isabelle Sorand, par ordre chronologique. Frédéric Fromet chantera aussi en fin d'émission.
Un journal particulier, hein, parce qu'il y a un de nos héros qui connaît.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé alors
Vous allez savoir.
Non, mais vous avez fait une fête déjà ou pas?
Non, c'est pas le genre.
Non, ça vraiment.
Enfin, se réjouis pas du mal.
Écoutez.
Non, mais je pense qu'il faut qu'il aille voir un médecin et qu'il prenne de la camomille, Jean-Luc.
Le journal de presque 17h17. Hey, Dupond-Moretti, c'est toi qui dois aller aussi prendre une petite camomille. T'es très énervé.
On commence par les titres.
Patoche. Patoche passera la nuit en la prison de la santé après sa condamnation à 4 ans de prison ferme.
Et oui, il va donc passer de la villa Pamplemousse aux oranges dans la cellule.
Et aujourd'hui, c'est également la grande journée de grève à la RATP.
Oui, si vous vivez en région parisienne, faites comme Pénélope Fillon, restez plutôt chez vous à rien branler.
Et les brèves.
Et oui, elles sont toujours en liberté, les brèves. Elles. Commençons donc par ce jugement dans l'affaire Balkany.
Oui, le maire de Levallois-Perret était donc condamné à 4 ans pour fraude fiscale et il est parti directement en prison.
Cette affaire se termine exactement comme elle a commencé, sans que Balkany ne fasse de déclaration. Ça a toujours été son petit problème.
On retiendrait évidemment cette phrase de son avocat, maître Éric Dupond-Moretti.
Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui.
Oui, peut-être, mais au départ, c'est quand même lui qui avait oublié de nous payer, nous.
Justice encore, l'on parle de la mise en examen de Richard Ferrand. Le Premier ministre, Édouard Philippe, lui a assuré son amitié réelle et son soutien total.
Oui, la dernière fois qu'un homme de droite a assuré quelqu'un son amitié réelle, c'était Sarkozy avec Kadhafi. Et on sait comment ça s'est fini.
Aurore Berger, elle a apporté son soutien ce matin aussi à Richard Ferrand face à Jean-Jacques Bourdin.
La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il est mis en examen.
Il est président de l'Assemblée nationale.
Et que rien ne l'empêche d'être président de l'Assemblée nationale.
Rien ne l'empêche d'être président de l'Assemblée nationale, déclare-t-elle. Alors si, il y avait peut-être la déontologie ou la dignité. Mais ça, Aurore, elle n'est pas au courant que ça existe non plus.
Quant aux soupçons d'emploi fictif, oui. Le procès Fillon se tiendra du 24 février au 11 mars 2020.
Voilà, ça prenez note. En revanche, pour ce qui est de rendre l'argent, François Fillon prévoit toujours le 31 février prochain.
On en vient à la grève à la RATP.
Oui, hier bien sûr sur BFM TV, c'était la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui était interrogée à ce sujet. Et elle a fait preuve d'une grande compassion.
Demain matin, j'utilise ma voiture de fonction comme tous les jours. Je serai de cœur avec tous les franciliens qui galéreront dans les couloirs du métro.
Voilà, alors, heureusement que cette personne est spécialiste en communication. Hein, si elle n'avait pas été spécialisée, on n'ose pas imaginer ce que ça aurait donné.
La communication est dead. Passons au Sénat avec ce fameux buste d'Hitler qui avait été retrouvé dans la cave du Sénat. Il a été proposé au musée de l'armée et au musée de la libération.
Eh oui, tristesse du côté de la mairie de Vichy, qui l'aurait mérité de droit.
Patrimoine encore à Paris, l'échafaudage de Notre-Dame menace de s'écrouler.
Là, je crois que c'est un signe que Dieu, même lui, n'a plus rien à foutre.
Un autre procès du côté de Lyon, celui d'une lanceuse d'alerte poursuivie par Tefal.
Alors, je connais pas bien l'affaire. Mais je suis pas tellement étonné que Tefal ait des casseroles au cul.
Allez, c'est vendredi. Allez, santé avec une étude qui a conclu que les végétariens et les véganes auraient plus de risques d'avoir un AVC.
Et voilà, donc refuser de manger de la viande, c'est risqué de finir comme un légume. Et c'est pas de chance.
Et des brèves.
Et des brèves. À Talent, près de Dijon, il avoue vendre de la drogue et dénonce sa mère qui en consomme. Morale de l'histoire. Les chiens ne font pas des chats, ils font des corbeaux.
Une dernière.
Et une dernière, un championnat de pétanque avec boule carrée se tient en... Non, c'est pas gentil.
C'est chez nous.
C'est chez nous, c'est
non,
en Belgique. C'est
vous
en
êtes super.
Oui. Oh là,
vous êtes vraiment les plus
mignons.
On
se moque pas des Belges, parce qu'en France, Olivier Giroud joue bien au foot avec des pieds carrés.
Allez, si vous aimez l'art et les brèves, et l'art des brèves, Alex sera chez vous dimanche prochain, le 22 septembre.
Voilà, à Honfleur.
En spectacle à Honfleur. Merci Alex. Daphné Burki en notre compagnie. On va parler d'un sujet qui tient à une autre de vos actualités, car vous présentez bien sûr Je t'aime, etc. du lundi au vendredi sur France 2 à 15h. Mais par ailleurs, trois petits points, attention, une écrasante majorité d'enfants craint de devenir pauvre. Fini l'insouciance, place à l'anxiété chez 62% des 8-14 ans, alors que deux tiers d'entre eux déclarent qu'ils ne connaissent pas directement de gens dans la précarité. Mais la moitié, on en a croisé à l'école. Ce sont les conclusions d'une étude publiée par le Secours Populaire et ça plombe un petit peu les discussions dans la cour de récré.
Tu les connais ?
Ouais.
Ils sont du Moulin de la Vierge ?
Ouais.
On ne dit pas ouais.
Alors ?
C'est des pauvres ?
Ouais, c'est des pauvres, alors ?
J'aime pas les pauvres.
Ah bon ? T'aimes pas les pauvres ?
Non.
Pourtant, toi aussi t'es une pauvre.
Ben, papa est directeur de l'EDF.
Et ton père, ouais ? Pas le tien.
T'es bête.
C'est toi qui es bête. T'as pas encore compris. On est né le même jour.
La vie est-elle en fleuve tranquille ? Ils sont nés le même jour. D'Étienne Chatillez. C'est un article paru dans Le Parisien aujourd'hui en France, puis cette étude du Secours Populaire. L'article est intitulé « Papa, j'ai peur d'être pauvre ». Alors, avant d'en venir à la raison pour laquelle on a choisi ce sujet aussi, outre l'intérêt qu'on y porte, déjà, d'après vous, dans notre... comment est-ce qu'on arrive dans notre société à des enfants qui ont entre 8
c'est
et 14
toute la question.
Ans ?
Je me demandais... Mais ce chiffre, il est en augmentation, j'imagine. C'est pour ça que... Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi est-ce que les enfants ont peur ? Comment est-ce qu'ils l'expliquent ?
Alors, ils disent qu'ils voient... Alors, c'est ce qui est visible, c'est les SDF, les migrants, les sujets à la télévision. C'est-à-dire une
donc
précarité...
Donc la misère serait plus visible.
Ben, dans les, en tout cas, dans les médias, parce qu'ils déclarent, ces enfants, qu'il n'y a pas dans leur entourage direct des gens pauvres, qu'ils ont, ils arrivent à les identifier à l'école, mais ils sont dans une anxiété qui est peut-être due aussi à la visibilité aux écrans, etc.
Une anxiété ou une prise de conscience. Alors aussi, certes, c'est jeune, mais... Est-ce que c'est une si mauvaise nouvelle que ça, en fait? Est-ce que c'est finalement pas dès le plus jeune âge qu'on peut, je sais pas, leur...
Sinon, il faudrait cacher
les aider à développer, justement, une pensée.
C'est pas une bonne idée, ça.
Non, c'est vrai, ça les incite à l'action, ils disent.
J'imagine.
Par rapport à leurs parents qui ont peut-être
ils sont beaucoup plus forts que nous, les enfants. Mmh. Donc, eux n'ont pas peur, déjà, normalement.
Normalement. C'est ça qui est inquiétant là-dedans.
Ils n'ont pas peur, ils sont forts, ils sont dans le lâcher-prise, contrairement à nous. Ils font confiance plus rapidement. Donc, est-ce que c'est pas justement une bonne nouvelle?
C'est à la fois un peu intriguant, effrayant et une bonne nouvelle, en effet. Vous avez été, vous, styliste chez Dior.
Il y a longtemps.
Ouais. Et pour la première fois depuis cette époque, vous avez repris les crayons pour dessiner des chaussures au profit du Secours Populaire.
Mais non, mais alors en fait, je suis l'une des marraines du Secours Populaire. Il y a des parrains, il y a des marraines. Et on essaye tous de trouver des idées justement pour donner envie d'aider l'autre, d'aller vers le prochain, d'éventuellement faire un don. Et c'est pas si évident chez les jeunes. Et donc, c'est une marque d'une distribution de chaussures qui s'appelle Sarenza.
Ah bon, on peut le dire puisque l'argent va au Secours Populaire.
Ouais,
en partie,
voilà. Donc on a le droit de le dire. Elle me dit, mais est-ce que vous voulez pas dessiner une paire de chaussures? Rien à voir avec le Secours Populaire. Je lui dis, mais non, merci. Et après, oh, ting, lumière au-dessus de ma tête. Je dis, tah, là, c'est bien. Peut-être qu'on peut réussir à gagner quelques sous. Parce que le but, c'est toujours de trouver des idées plus inventives. Et donc, j'ai repris le crayon. J'ai redessiné, ce qui m'a amusé. Et
on a... C'est venu facilement?
Mais en fait, quand je suis arrivée, que j'ai montré les dessins au studio, ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas vu de dessin. Parce qu'en fait, maintenant, on dessine presque plus, ils sont sur ordinateur. Donc déjà, il y a eu un premier effet. On dirait, elle est comme si j'étais très âgée, je ne sais pas. C'est dire, oh, c'est des dessins. Il y a un crayon qui bouge. Et après, voilà, j'ai suivi. En fait, ça fait un an, mais on n'avait pas communiqué là-dessus, c'est long. Et puis on a sorti, voilà, tu sais, quelques paires de chaussures avec un cœur dessus, évidemment, pour... Parce qu'on marche avec le cœur dans cette histoire. Mais le but, c'était simplement de trouver des idées pour sensibiliser aux dons, parce que c'est pas une évidence, en fait. On sait pas trop à qui donner, pourquoi, comment.
C'est une idée très originale, donc on peut répéter, voilà, que c'est donc...
C'est à partir du 16 octobre, si vous voulez acheter une paire de grolles, bah, il y a de l'argent qui revient au Secours Populaire.
Un site qui s'appelle Sarenza, vend ses chaussures et au profit du Secours Populaire.
Exactement. Vous n'allez pas le dire, Charline, mais votre cahier de vacances de Manu avec Guillaume Meurice est toujours en vente et il y a aussi des bénéfices qui sont reversés.
Secours Populaire! Mais bien, ils vont avoir beaucoup trop de blé, d'abord.
Non, ils en font jamais assez. Ils font tellement de choses, bien sûr. Ils font un travail formidable.
C'est vrai,
si vous voulez être bénévole, c'est trop bien.
Et on embrasse
les
bénévoles.
Et il y a le Secours Pop Rock aussi, qui est très bientôt, le Secours Pop Rock, et qui est aussi un concert au profit du Secours Populaire avec Hocus Pocus. Les places ont été mises en vente hier. Bon, je sais que ça va partir très vite, mais sait-on jamais. Si vous voulez passer une bonne soirée, vous en jaillez avec nous, on sera là.
On sauve le monde, hein, dans cette émission, quand même, un petit peu.
Oui, on sauve le monde avec du fun. Parce que si on sauve le monde et qu'on n'est que dans la culpabilité, c'est chiant.
C'est vrai. Non, avec le sourire, ça marche toujours mieux.
Ouais.
Daphné Burki avec nous. Et attention, la chronique de Thomas Bidguin.
Oh, voilà.
Qu'est-ce qui se passe?
Mais alors pourquoi, qu'est-ce qui se passe?
C'est une grosse attente. Ça, il y a une vraie attente. Vous allez voir ça.
Mais il s'est coiffé.
Elle n'est jamais déjouée, cette attente-là. Et parce que c'est à moi et je fais ma rentrée un peu tard. Mais pourtant, j'ai eu peu de vacances. Ça a été un été studieux pour moi. Mais ça va parce que j'ai appris un truc. J'ai appris à voyager dans ma tête. Et c'est pratique. Aïe. C'est surtout pratique les jours de grève. Je voyage dans ma tête sur la ligne 11, et puis sur la ligne 7, je change à Aubert dans ma tête. Je peux partir et je peux revenir, c'est super. Et donc voilà, je reviens. Alors que on n'a toujours pas de nouvelles d'André Manoukian, qui lui aussi voyage. Il lui aussi voyage dans sa tête, mais il voyage dans sa tête sur Aigle Azur. Alors, forcément, il a du mal à revenir. Mais voilà, j'ai appris ça. J'ai appris aussi à jongler cet été. Ah. C'est difficile, mais je jongle dans ma tête. Et je fais aussi de la magie et du macramé dans ma tête. Ouais. J'ai appris ça en regardant Emmanuel Macron et la façon qu'il a de régler le problème climatique dans sa tête. Alors, voilà, je reviens. Et une fois de plus, je viens parler de storytelling. C'est ça que je fais ici. Je parle de tous ces petits morceaux de récits qui flottent délicatement dans les frimas de septembre, comme les effluves de glyphosate se déposant délicatement à 5 ou 10 mètres, des champs contaminés raffiné, jamais plus loin, bien entendu, mais qui, mis bout à bout, forme le poison des grandes histoires du monde, celui-là même que l'on inhale sans y penser, jusqu'à ce que l'air du temps devienne vraiment irrespirable. Le storytelling, quoi. Voilà. Et dans cette époque où chacun est sommé de noter la moindre des services qui lui est rendu, à coup d'étoiles ou de smiley, puisqu'on nous intime désormais de juger les juges, de critiquer les critiques, de policer les policiers, il y en a plein comme ça, de tromper les trompettistes, il est temps, dans cette chronique, de se poser la question, comment juger une histoire ? Ben, le test est simple. Face à une histoire, on peut se poser trois questions. Un, qu'est-ce que ça me dit du monde ? 2. Est-ce que ça produit des images ? Et 3. Est-ce que je les ai déjà vues ? Et donc, puisque désormais tout n'est plus qu'histoire, Hong Kong, la PMA, Brigitte Macron, la fin du monde ou Benjamin Griveaux. D'ailleurs, certains disent que Griveaux n'est qu'un signe avant-coureur de la fin du monde. La réponse à ces trois questions est un tamis pour la vie, qui permettra à chacun de juger de la pertinence du récit. À l'aune de ces questions, force est de constater, par exemple, que les scénaristes du Brexit sont des génies. Saison après saison, on change de personnage, en milieu de course, on a tout, on a la démission du frangin, on a le député qui change de camp en plein discours, on a Boris affalé dans les travées du Parlement, ça crée des images, ça me raconte le monde, et on peut dire, tant mieux ou tant pis, que ça, on l'avait jamais. Ils sont très forts, les anglo-saxons. Ils se posent même ce genre de questions dans leurs films. Dans leurs films, il faut qu'il y ait la grande histoire, la petite histoire et l'histoire du cinéma. Et c'est ça, et elle est longue, l'histoire du cinéma. Il a 120 ans, le cinéma. Alors que l'actrice qui joue sa femme en a toujours 28. Alors que nous, en France, on raconte quoi ? Eh ben, on raconte le procès Balkany, bien sûr. Et oui, comme ça. Est-ce que ça me parle du monde ? Bien sûr, un petit peu. Mais les images, je les ai déjà vues. Et le personnage principal, il est quand même un peu essoré. Alors oui, il a volé le fisc. Stephen Hawking disait « Si Dieu avait voulu que l'homme vole, il lui aurait donné des tickets en première. Bon, » je ne suis pas certain que Stephen Hawking ait dit ça, mais il n'était pas non plus très marrant. Mais bon, j'aimerais bien voir Vizorek taper ses punchlines lettre par lettre en clignant des yeux. Ça donnerait un autre rythme à l'émission. Enfin voilà, on a
votre, par exemple.
Ça ressemble un peu. Merci. Enfin voilà, on a beau nous en abreuver, peu d'histoires résistent à cette grille de lecture. On pensera avec émotion aux établissements pronuptiaux, par exemple, les robes de mariée, qui, on l'a appris, viennent de fermer. C'est triste et ça finit mal. Ça me fait penser à mon premier mariage. Mais ça nous raconte quelque chose du monde. Quand on se marie, on a beaucoup d'illusions et pas beaucoup d'argent. Alors qu'ils auraient fait des robes de divorcés. Bah ouais, là, il y a du pouvoir d'achat.
C'est enfin malin, bon. Ça,
c'est comme ça. L'été aura été marqué par un grand nombre de disparitions. On apprend aujourd'hui la mort de Philippe Pascal, qui était le chanteur si charismatique du groupe Marquis de Sade. C'était mon époque. Hier, c'était la mort de Habibie, l'ancien président d'Indonésie. Enfin oui, j'ai l'impression que je vous l'apprends. Bah oui, elle était acquise, l'Indonésie, de 97 à 99. Habibie. Et donc, alors, il y a eu aussi, bien sûr... Il y a eu bien sûr les 1500 morts de la canicule en juillet et puis les Marseillais qui ont passé le mois d'août à se tirer dessus dans les cités, le fameux effet Guns and Roses. Et puis une enquête nous apprend que dans le monde, quelqu'un se suicide tous les 40 secondes. Ça veut dire 8 suicides pendant la chronique d'Isabelle Sorrente et 14 pendant la mienne. Il est donc temps que j'arrête de bégayer. Il est temps de conclure en vous disant un mot sur les plus belles histoires, pas celles qu'on nous vend, pas celles qu'on lit dans le journal ou celles qu'on effleure du doigt sur Netflix. Non, les plus belles histoires, c'est celles qu'on se fait. Dans sa tête.
Je suis bien d'accord.
Oui, merci Thomas Bidguin. Alors, il faut qu'on dise à nos auditeurs, Thomas Bidguin, généralement, on le croise vers midi quand il peaufine sa chronique.
Oui.
Il vient plus tôt et tout ça. Et alors, il dit à chaque fois, je suis désolée, tout à l'heure, j'ai pas de blague.
Ouais.
Voilà.
Et c'était une fois de plus.
Elle connaît vos techniques. Allez, Daphné Burki est avec nous.
Habibi.
What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even want a hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I thought I was loving bad. But baby,
gotta get my hair pressed again. I would do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name.
I love you. Et c'est certainement programmé pour Daphné Burki, oh ouais, qui présente.
Les amis, Lizzo, déjà. Lizzo, bon, évidemment, vous allez sur son compte Instagram immédiatement, si ça n'est pas déjà fait, chers auditeurs, parce que c'est une merveille à écouter, à regarder. Ouais. Personnalité incroyable. Et puis, chanson d'amour. Ça n'a pas fait beaucoup de slow, je vous le dis tout de suite. Hein. Je ne sais pas si vous êtes connectés, si vous nous voyez, mais ça n'a pas dansé. Il n'y a pas eu de rapprochement.
Non, il n'y a pas eu de rapprochement.
Est-ce qu'il y a déjà eu des rapprochements dans ce studio? Est-ce qu'il s'est déjà passé des rencontres?
Il y a eu Michel Thor la semaine dernière. Je ne vous cache pas que j'ai bien avancé.
Ouais. On propose aux auditeurs d'aller réécouter cette émission, de voir le magnifique duo avec Frédéric Fromet.
Mais, ouais. Mais en vrai, vous savez pas s'il y a déjà eu des vraies rencontres dans ce studio.
Bah quand il y a André Manoukian et il va venir nous voir bientôt, il y a des rapprochements.
André est en quotidien avec moi, il y a un rapprochement avec tous les invités.
C'est
André.
Ça.
On est jaloux.
Mais après, il y a une main courante maintenant contre lui.
À voir donc dans Je t'aime, etc., l'émission quotidienne de Daphné Burki sur France 2 à 15h. Daphné, à côté de vous, il y a bien sûr Isabelle Sorrente, qu'on va entendre dans un instant, et elle nous vient de Suisse, de la RTS, Christine Gonzalez.
Non, appelez-moi Christine Gonsintès.
Ah.
France Inter. Le 18-20
de l'au-delà.
Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a été mis en examen hier pour prise illégale d'intérêt par le parquet national financier dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Pendant que les appels à la démission se multiplient, le gouvernement assure son soutien et son amitié. Balkany condamné, Ferrand soupçonné, les Français vont-ils perdre définitivement confiance en leurs autorités? Faut-il être irréprochable lorsque l'on fait de la politique? C'est le téléphone sonne dans l'au-delà. Soyez les bienvenus.
France Inter, le téléphone sonne.
Qui ouvre le bal ce soir?
Chaban.
Jacques Chaban, Delmas, ancien Premier ministre, député, maire de Bordeaux.
Oh, tout à fait.
Et aussi président de l'Assemblée nationale, j'imagine que c'est pour ça que vous nous appelez.
Tout à fait.
Qu'est-ce que voulez-vous nous dire ce soir?
Tant qu'on ne sait pas, on n'est pas sûr de savoir.
C'est-à-dire?
Être calomnié, être vilipendé, et que tout cela entraîne une diminution de l'efficacité de l'action qu'on mène pour les autres et à laquelle on a voué sa vie, alors c'est une souffrance.
Vous en appelez à la présomption d'innocence, Richard Ferrand est vilipendé selon vous?
Vous savez, si on vous dit « Ah, vous avez volé les tours de Notre-Dame, démontrez-moi le contraire », croyez-moi, c'est très difficile.
Bon, Jacques Chaban, est-ce que votre position a un lien avec le fait que vous ayez été vous-même la cible du canard enchaîné en 72 qui révélait à l'époque que vous ne payiez pas assez d'impôts?
Vous comprenez bien.
Ça fait mal à votre réputation, cette polémique.
J'étais empêtré dans les histoires impossibles. Il fallait y consacrer des heures. Et surtout, c'était un arrière-plan dans mon cerveau. Et tout ça, c'était dommageable pour le pays. Et je le ressentais comme une blessure, chaque fois, supplémentaire, à moi, portée, par moi subie.
Qu'est-ce qui, à l'époque, vous a fait tenir debout?
Ma bite.
Mais ça va pas.
Sans santé.
Non, bon, alors on passe à un autre appel. Carlos, vous êtes en ligne.
Je l'ai dit. Tant mieux. Tant mieux.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce soir, Carlos?
J'avais le droit de dire au roi, attention, t'as dit une connerie. Alors je sais pas comme ça qu'il faut faire, il y avait des clochettes, mais si, faisait chier, on lui coupait la tête.
J'ai pas bien compris ce que vous voulez dire.
Petit, comptez tous les jeunes. Hein. Je crois que bon, le camion de la gauche, c'est petit, si on s'en emmerde. Non, ils s'embranlent complètement, Carlos... en car avec des sandwichs, ceux qui sont là pour s'éclater.
Carlos, je comprends rien, ça suffit ces bêtises, passez-moi votre mère. Françoise Dolto, votre fils est incapable de faire une phrase et il s'obstine à vouloir parler sur France Inter.
Oui, puis ce n'est pas drôle tous les jours d'être enfant de psychanalyste.
Nous parlons ce soir du monde politique et de la défiance des Français envers les autorités. Où est-ce que vous rangez, vous, la classe politique française, Françoise Dolto ?
À la récréation.
Vous ne faites pas de différence entre les enfants et les politiciens ?
Pour moi, non.
Pourquoi ?
Quand les enfants sortent de ces... Il pleure exactement de la même façon.
Merci Françoise Dolto pour cette analyse.
C'est très intéressant.
Oui, c'est très intéressant, merci. Place un politicien, allô ?
Bonsoir.
Raymond Barre, rapprochez-vous du téléphone, on vous écoute au sujet de Richard Ferrand.
Non, ce que je voulais dire simplement, c'est que je crois qu'il faut que la justice puisse suivre son cours sans aucune interférence. Les Français croient souvent que... selon que l'on est puissant ou misérable.
Etc, etc. Ma question, est-ce que c'est l'affaire de trop dans un climat politique encore fragile ?
Ce qu'il faut, je crois, réussir à obtenir, c'est une grande transparence.
Raymond Barre ?
C'est la raison pour laquelle, parmi les objectifs que j'avais retenus, j'avais mis en tête la restauration de la dignité de l'État et de la dignité de l'administration.
Raymond Barre, comment vous dire, je crois que vous avez raté un truc cet été pendant que vous étiez mort. C'était encore un coup du canard enchaîné, mais ils ont révélé que vous aviez dissimulé plusieurs millions d'euros en Suisse. Donc, parler de transparence, c'est pas super adéquat. Là.
Madame, les révélations...
Raymond Barre. Raymond Barre. Non, vous ne faites pas le coup des interférences sur la ligne. Là. C'est
les interférences se produisent.
Je suis toujours là.
Qui ?
Chaban.
Chaban. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
La cautérisation de la plaie rend la peau plus dure, plus forte.
Bon, alors concrètement, qu'est-ce que vous conseillez à faire en vous ?
Réflexion, action, réflexion, action, réflexion, action. Vous savez, c'est comme l'histoire du piston qui fait marcher la machine, c'est pas ?
Bien. Merci, monsieur. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Belle soirée à l'écoute de France Inter.
France Inter.
Bravo.
Ah ouais. Le téléphone sonne. De là.
Christine Gonzalez, ouais. Bravo. Alors, ce fameux Chaban qui dit ma bite, c'est. Vous avez coupé un truc.
Oui, il disait que la passion l'habite.
Ah, bah, voilà, c'est ça. Christine
vous
Gonzalez.
Pour quelqu'un de malhonnête.
Daphné Burki. Elle présente Je t'aime, etc. Et vous, sur la Radio Suisse, ce soir, vous présentez votre émission hebdomadaire Question Q.
Question Q, on parle de la fessée ce soir.
Ah, très bien. Ah ben, super.
La fessée dans le couple, donc.
Oui, ou pas dans le couple. Ouais,
la fessée tout court.
La fessée.
L'histoire de la fessée.
La claquette du dimanche. Voilà.
Vous pouvez écouter en podcast.
La vraie séance de fessée. Ouais.
Ouais, très bien. Parce qu'il n'est encore que 17h45. Hein, donc, attendez. Voilà. En podcast, éventuellement, RTS. Christine Gonzalez. Abordons cet autre sujet avant d'écouter Isabelle Sorrente avec Daphné Burki. Le milieu de la mode a désormais ses justiciers. Ils pointent du doigt des modèles qu'ils semblent un peu trop inspirés d'autres créations. Ou quand les marques se rendent coupables de sexisme, de racisme ou d'appropriation culturelle, comme cette publicité où un mannequin blanc porte un foulard sick. On sent quand c'est vendredi. Dans la mode, on dirait que le diktat a changé de camp et qu'on assiste à la naissance d'un diktat de l'éthique.
T'as vu H&M, ils ont sorti une nouvelle collection Conscious, de la mode durable inspirée de la nature. Tout est bio.
Eh ben, ce qui serait vraiment bio, c'est de retirer une collection plutôt que de nous en rajouter encore une nouvelle.
C'est bien quand même, il faut quelque chose pour aider.
Mais s'ils veulent vraiment aider, qu'ils arrêtent de faire, justement. Nous, on peut plus suivre. Enfin, est-ce que t'as vu nos tronches devant nos armoires ? On est à deux doigts de dire j'ai rien à mettre, j'ai rien à mettre, alors qu'elles dégueulent de fringues et d'accessoires. C'est insupportable.
C'est vrai que ma mère, quand elle disait j'ai rien à mettre... Bah, elle avait rien à se mettre,
des patates et des sabots, parce qu'elle était pauvre. Et puis voilà, que nous, on essaye de suivre tout le temps, on n'y arrive pas. Alors voilà, c'est les cols ronds, puis c'est les cols en V, puis c'est les slims, et puis c'est pas les slims, et puis c'est les tailles basses. C'est infernal, tu peux rien garder.
Catherine et Liliane.
C'est assez juste.
Oui, Alex, ah oui, c'est vrai, vous trouvez ?
C'est très très juste.
Oui. C'est vrai. Alex Lutz et Bruno Sanchez. Précédent numéro du magazine Aime le Monde qui publie cet article. Je rappelle pour les auditeurs qui nous rejoignent que Daphné Burki, vous avez été styliste.
Oui, ça m'est arrivé.
Bah oui.
J'ai travaillé dans une maison de couture, tout à fait.
Et le plagiat dans la mode, j'imagine que c'était un sujet déjà récurrent, mais peut-être pas aussi amplifié.
Mais c'est génial parce qu'en plus c'est la jeune génération qui est en train de s'emparer de ça, c'est-à-dire que c'est la jeune génération, il y a quelques comptes Instagram dont un qui est assez fameux qui s'appelle Diet Prada et qui sont des jeunes qui pourtant ont l'histoire de la mode en eux, je ne sais pas comment c'est possible de connaître autant de choses, autant de détails sur l'histoire de la mode. Et c'est une espèce de tribunal où, en effet, on est là pour dire tatatat. Attendez, là, on l'a déjà vu là, et puis on l'a vu là, et là, et là, et tu as recyclé là. Alors c'est terrible, parce qu'ils croyaient être des dieux vivants, tous ces créateurs, et puis là, tout d'un coup, on leur dit, mais non, en fait...
Ils ne sont que Gad Elmaleh.
Il va falloir faire attention. mais c'est un peu le même principe que Copy Comics, c'est vrai.
Ouais, oui, c'est vrai.
Et finalement, c'est bien qu'il y ait une justice partout.
Parce que dans le milieu des humoristes, on en parle énormément, presque
mais ça
trop.
Fait peur, parce que dans le milieu de la mode, alors moins dans le milieu des humoristes, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, un créateur de mode peut être là juste pour 6 mois. Il y a une espèce de turnover complètement dingue dans la mode. Donc déjà que vous avez peur pour vos fesses... Déjà que c'est très éphémère, une carrière dans la mode. Mais alors là, vous n'avez pas le droit de faire un pas de côté. Mais je trouve ça très bien que ça existe. En fait,
Oui, parce que ça peut mener éventuellement au boycott si l'affaire est très grande. Donc il y a quand même un levier qui est quand même assez fort.
Mais moi, je trouve ça formidable pour tous ces jeunes créateurs qui essayent d'émerger. C'est si difficile en plus. Et c'est vrai, quand on voit ton modèle qui est repris dans les maisons de couture et qu'on dit, de toute façon, c'est comme ça, c'est la norme, je ne peux rien y faire. Non, finalement, grâce aux réseaux sociaux, car il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux. C'était rare de pouvoir le dire.
Ouais, c'est vrai.
Et ben, il y a aussi, des espèces de petits justiciers comme ça.
Que les Américains appellent les chiens de garde.
Ouais.
Nous, on les appelle les justiciers.
Ouais. Moi, je trouve ça plus,
Oui, c'est plus. L'autre est plutôt connoté. C'est
chien
sûr.
De garde, oui, ça nous rappelle quelque chose. Plus, oui.
Ouais, Daphné Burki avec nous et dans ce studio également. Un autre retour, celui d'Isabelle Sorrente qui chausse ses demi-lunes avant d'entamer son explication.
Oui, alors, parce que cette période de rentrée où nous jonglons avec nos emplois du temps, où le climat se réchauffe ou fonde les retraites et les avantages sociaux, j'ai décidé de vous parler de contes de fées. Car tout conte de fées est un miroir magique qui reflète certains aspects de notre univers intérieur et des démarches qu'exige notre passage de l'immaturité à la maturité. Pour ceux qui se plongent dans ce que le conte de fées a à communiquer, il devient un lac paisible qui semble d'abord refléter notre image, mais derrière cette image. Nous découvrons bientôt le tumulte intérieur de notre esprit, sa profondeur et la manière de nous mettre en paix avec lui et le monde extérieur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Bruno Bettelheim dans Psychanalyse des contes de fées. Alors, quel conte illustre mieux la frénésie de la rentrée qu'un conte cruel comme Les Chaussons Rouges de Hans Christian Andersen? Les Chaussons Rouges, c'est l'histoire d'une jeune orpheline, Karen, à qui sa mère adoptive, qui n'y voit plus très clair, achète sans le savoir des souliers ensorcelés, souliers rouges comme l'orgueil, comme la passion et l'excès. La jeune fille commet le péché de les porter pour sa communion, car ses souliers sublimes exercent sur elle un attrait irrésistible. Sa vieille mère adoptive s'inquiète. Elle sent que sa fille va trop loin. Alors elle lui demande de porter des chaussures ordinaires, des souliers moins stylés, des souliers noirs, discrets, des souliers de fille bien. Mais Karen ne peut pas s'en empêcher. Elle remet les souliers rouges et la vieille, qui est à moitié aveugle, ne se rend compte de rien. Jusqu'au moment où Karen va au bal et là, elle ne peut plus s'arrêter de danser. Les souliers sont comme vissés à ses pieds. Ils lui font traverser les forêts, les collines, sous la pluie, sous l'orage, sous la grêle. Et elle se voit danser comme ça jusqu'à la mort, pour l'éternité peut-être. Alors la malheureuse, et c'est là où ça devient cruel, incapable de s'arrêter, frappe à la porte du bourreau et lui demande de lui trancher les pieds avec sa hache. C'est ce qu'il fait, le bourreau. Et les pieds continuent à danser seuls dans leurs chaussons, lui barrant la route chaque fois qu'elle tente de rejoindre les autres et de réintégrer la société. Karen, je vous le dis sans spoiler, ne trouvera la sérénité que dans la mort. Bien, moi, j'adore ce conte parce que je trouve qu'il a quelque chose de terriblement contemporain.
Bonne nuit, les petits.
Je me demandais le vendredi qu'est-ce qui me ferait du bien avant le week-end.
Et bien, voilà.
C'est là, voilà.
Là, je crois qu'on l'a.
Ça m'a fait un shoot de gingembre.
Oui, parce que ce conte, ça nous rappelle l'addiction, l'accélération, toutes ces fois où on voudrait s'arrêter, où il faudrait ralentir et où on n'y arrive pas. Parce que n'avons-nous pas tous, un jour ou l'autre, enfilé les chaussons rouges? Alors, il y a la deuxième version, somptueuse, je ne la prendrai pas à Thomas Bidguin, c'est la version adaptée au cinéma en 1948, ce film extraordinaire. Excusez-moi, le fil de mon casque n'arrive pas à se coincer. Oui, Michael Powell et Emmerich Pressburger. Et l'héroïne, cette fois, ne s'appelle plus Karen, elle s'appelle Vicky Page. C'est une danseuse et son maître de ballet la convainc de renoncer à tout pour l'art, même à l'amour. Ce qui finira par la mener au suicide. Alors à nouveau, c'est une histoire d'excès, de création et d'obsession, un film hypnotique dont Brian De Palma a avoué qu'il représentait pour lui le film parfait. Et pour nous, alors, que représentent les chaussons rouges? Eh bien, ce sentiment d'être dépassé, de ne plus pouvoir s'arrêter, non pas de danser, malheureusement, mais de courir. Ce ne sont pas des chaussons rouges, mais des costumes gris, des tailleurs noirs, des vêtements pratiques, fonctionnels, que nous enfilons aujourd'hui, nous, les candidats au burn-out. Cet épuisement professionnel qui touche souvent les passionnés, ceux qui, comme l'héroïne du film de Powell ou celle d'Andersen, se jettent à corps perdu dans ce qu'ils font. Les chaussons rouges est un conte en avance sur son temps, un conte sur l'épuisement physique et psychique, l'épuisement de nos ressources intérieures qui résonne, je trouve, étrangement, avec celui de la terre, des nappes phréatiques, de l'océan, comme si l'exploitation intensive était devenue un mode de vie, dedans et dehors, nous dévorant avec la même avidité que notre environnement. Alors en cette rentrée, dansons un peu moins vite.
Isabelle Sorrente.
Isabelle Sorrente, bien sûr.
Oui, disponible pour du babysitting. Hein. raconter des histoires aux enfants.
Mais c'est un très joli conte. Alors la hache, souvent, malheureusement, est zappée dans certaines versions. Mais oui, la vraie ça, version d'Andersen, il y a la hache.
C'est mieux quand il y a un peu de sang.
Oui, oui, une petite hache dans un conte.
Oh, une petite hache.
Dans une autre...
Une petite hache.
Votre... Livre sort en poche, Isabelle Sorrente.
Oui, qui parle d'abattoir, effectivement, et d'élevage industriel, voilà. 180 jours, mais une enquête de 9 mois quand même. Chez Folio.
Et bien, oui, voilà. C'est en poche, donc allez-y.
Peut-être qu'on peut sortir ce soir, vous voulez qu'on aille se changer des idées.
Oui.
Moi, je vous offre un verre.
Avec joie, avec joie. Hein,
il est 17h54 sur France Inter, et partout en France d'ailleurs, sauf dans le métro parisien où le temps s'est arrêté. Eh oui. Si vous êtes dans les embouteillages, eh bien, restez avec nous.
Oui. Bon courage.
Mais oui, alors, normalement, il y a quelqu'un qui doit entrer dans ce studio à 7h05.
Vous voulez que je fasse
Il est là. Regardez comme il est là, comme vous avez de la chance, Daphné Burki.
Il a une guitare, il sourit.
Eh ben oui. Oh ouais. Et il n'y en a qu'un pour faire ça.
Oui, mais prenez votre temps, Frédéric Fromet, vous inquiétez pas.
Vous voulez qu'on fasse des vocalises à votre place?
Voilà, on peut imaginer une première partie de Frédéric Fromet ou quelqu'un chanterait quelque chose en première partie, si vous voulez, non?
Ça serait quoi,
Daphné Burki?
Il a l'air prêt d'un coup.
Je suis prêt.
Il n'a pas envie. Frédéric Fromet, de quoi allez-vous nous chanter?
Eh bien, j'ai remarqué que l'apparition de Jean-Jacques Goldman sur les plateformes de streaming coïncidait avec le lancement de la consultation publique sur les pesticides. Il met du Roundup près de la maison pour attirer l'eczéma, les boutons, les cancers, Alzheimer, Parkinson. Il sème la mort par pulvérisation. Et si j'étais drogué, peut-être au glyphosate, dans mes urines, dans ma prostate, aurais-je une tumeur ou pire dans le sang? Si j'habitais près d'un champ, empoisonne-moi, 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 empoisonne-moi avec Bayer et Monsanto. Empoisonne-moi, empoisonne-moi, que je sois bon pour la dialyse et la chimio. Empoisonne-moi, et on vomira. On vomira, toi et moi, tout ce qu'on pourra. Merci bien la FNSEA. Et ouais, merci les pro-pesticides. Encore un baratin, je crains qu'ils nous prennent pour des crétins. Encore un baratin, on n'est pas très malin. Pourquoi on ne respire pas plus loin? Car c'est sûr, les victimes des épandages, c'est de leur faute. Elle a fait un bébé sans bras. Elle a fait un bébé sans bras. 1 mètre ou 5 mètres ou 150 mètres. En attendant, elle s'est fait mettre. Ouh, elle a fait un bébé sans bras. Bref, ma conclusion s'adresse à la présidente de la FNSEA. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Elle s'appelait Christiane, elle aimait les pesticides. Dans ses flocons d'avoine, partout dans son bide. Contrairement à la tumeur, Christiane n'était pas maligne. Calme-toi, 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 calme-toi.
Bravo.
Il est en retard, mais...
c'est efficace.
Hein. C'est l'histoire de ma vie.
Alors, du moment que vous arrivez.
Merci Frédéric Fromet. Merci. Et vous, vous jouez ce week-end?
Oui, samedi à Guérigny, c'est dans la Nièvre.
Très bien, merci Frédéric Fromet.
Merci.
Et merci beaucoup Daphné Burki.
Ah, merci à vous.
On a passé un excellent moment.
Monsieur, j'étais bien avec vous.
Ça nous a mis la patate pour le week-end. Mmh. Je rappelle que vous avez dessiné des chaussures.
Mais oui, c'est vrai, c'est tout à fait.
Effectivement, qu'à partir de la mi-octobre, vous pourrez vous les procurer, les chaussées, via un site qui s'appelle Sarenza et qui donne les sous au Secours Populaire. Et puis Daphné, on vous retrouve bien sûr tous les jours sur France 2 dans Je t'aime, etc. C'est à 15h.
Oui.
Merci beaucoup les amis. Merci,
merci à vous
autour de cette table. Et puis l'équipe à la préparation, Sarah Masson, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Ramzi Assadi, François Audouin à la réalisation, notre stagiaire Céline Dubois à la technique, Nicolas Delmas et Youtou Diego. Ok, laps.
Oui.
C'est ce que j'ai noté. Je suis avec toi, Diego. Bon week-end, les amis.
Il a le sourire, donc ça va.
À lundi, nous passerons une heure en compagnie d'Adèle Haenel.
Et ses yeux sont charmants, comme disait si bien Jean.